Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, président fondateur et pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Non, j'ai juste eu à cœur de partager quelque chose avec nous ce matin qui, je crois, est très important. Et nous allons rester sur ce sujet, sur ce thème à la conquête des promesses tout au long de l'année. Et on va essayer de toucher différents points. Parce que tout simplement, les promesses dont Dieu nous parle lorsque nous ouvrons la parole, ces promesses-là touchent tous les domaines de notre vie. Tous les domaines de notre vie. Et là, pendant ces deux mois-là, on a eu, si je peux dire ainsi, une préparation. On a eu une préparation. Là, nous recevons les vitamines, nous recevons tout ce dont nous avons besoin pour être équipés. Et après, maintenant, il faut aller dehors. Après, il faut aller travailler. Quand on parle de la conquête des promesses, à la conquête des promesses, tu seras la tête et non la queue, etc. Maintenant, il faut le vivre. Maintenant, il faut le manifester. C'est bien beau de parler. Après, il faut aller travailler. Il faut travailler. Et par la grâce de Dieu, on y arrivera. Par la grâce de Dieu, je crois que Dieu se glorifiera dans nos vies. Par la grâce de Dieu, je crois que Dieu fera des choses extraordinaires. Il a déjà commencé à faire des choses dans chacune de nos vies. Et je crois que ça va continuer. Est-ce qu'on peut dire avec moi à la conquête des promesses? À la conquête des promesses. Quand on parle de conquête, c'est pas des mots qu'on utilise souvent dans notre vocabulaire. Conquête, conquérir, conquérant. Conquérant, en général, ce sont des mots qu'on entend lorsqu'on aime la télévision et qu'on regarde les dessins animés pour enfants, etc. Mais de nos jours-là, on subit plus la vie qu'on ne la conquiert. Mais pourtant, Dieu dit que vous êtes des conquérants. Dieu dit que tu es un conquérant. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible t'appelle roi, roi, reine. Un roi et une reine ou une reine, ce sont des conquérants. Ce sont des gens qui pensent large, qui pensent conquête, qui pensent territoire, qui pensent grand. Et aujourd'hui, c'est un peu ce point-là que je vais toucher. Et toute cette année, moi, je nous encourage. Je sais que ça ne va pas être facile. Je sais même que certains vont même, au bout de quelques mois, vont un peu oublier parce qu'ils n'auront pas pris le temps de réécouter les enseignements tant que ça sortira. Et puis, ils ne s'en souviendront plus et ils repartiront dans le même train-train de la vie. Mais je crois que d'autres vont prendre ces paroles-là et vont dire non, il faut que cette année 2014-là, ma vie change. Il faut que cette année 2014-là, je puisse commencer vraiment à vivre la Bible comme elle est écrite là, il faut que je la vive dans ma vie. Amen. Est-ce qu'on peut lever la main et dire aujourd'hui à un non-croyant, tu vois la Bible là, moi je vis ça. Tu peux avoir le courage de dire ça à un païen. Pourtant, c'est ce que nous devons être capables de dire tous les jours. Tous les jours. Moi, je rencontre des chrétiens avec qui travaillent, pas pour nous, mais qui travaillent pas loin de nous. Je les vois tous les jours. C'est un chrétien, mais jamais il te dit, à peine il te dit bonjour, ou bien quand il te dit bonjour, il ne sourit pas. Tu as l'impression qu'il est tout le temps malheureux, ou bien il a tout le temps un problème. Il est comme s'il était tout le temps fâché, mais derrière, tu entends, il est en train d'écouter les louanges. Et tu vas lui dire, mais frère, souris un peu. Dis bonjour aux gens quand ils passent. C'est quoi ton problème? Tu t'es réveillé comment ce matin? Hein? Des petites choses comme ça. Hein? Est-ce qu'on donne envie par nos vies, par la vie que nous avons dans nos maisons, au travail, les activités, notre vie chrétienne? Est-ce qu'aujourd'hui on donne envie? Eh bien, si ce n'est pas le cas, il va falloir que tu te lèves et que tu dises, il faut que ma vie donne envie aux autres. Il faut que lorsque les autres me regardent, ils puissent dire, moi aussi, je veux devenir chrétien. Ou bien s'il ne dit pas ça, qu'il dise, toi au moins je peux reconnaître que tu as quelque chose de différent par rapport aux autres. À la conquête des promesses. Est-ce qu'on peut dire avec moi à la conquête des promesses? On va atterrir sur notre première partie. Nous sommes en train de finir la première partie et nous avons parlé de la consécration. Nous avons parlé des 12 bénédictions que toute personne qui va dans l'intimité avec le Saint-Esprit reçoit. Nous avons parlé de la circoncision, de l'importance de circoncire son cœur et de bannir toutes sortes d'impuretés que l'on peut avoir dans sa vie. Nous avons parlé de la célébration. L'importance de célébrer. Pas de célébrer quand tout est déjà fait, mais de célébrer pour ce que Dieu va faire. Tu te réjouis déjà à l'avance de ce que Dieu va faire. L'importance de cultiver une atmosphère de louange. L'importance de cultiver cette atmosphère où que l'on aille, où que l'on soit, on doit cultiver cette atmosphère de louange. Sur la base de Josué, la Bible nous montre que ce sont ces trois choses-là qu'ils ont fait en premier. Ils se sont consacrés, ils se sont circoncis et ils ont célébré la Pâque. On a dit qu'ils ont fait la fête. Pourquoi? Parce que tout simplement, la parole nous montre que leur foi et leur courage avaient besoin de cet environnement-là. Parce que dans la vie, tu as besoin de construire autour de toi l'environnement qu'il faut pour stimuler ta foi. Parce que je t'assure que si tu ne fais pas ça, la vie va venir te décourager. Il y a des circonstances qui vont se présenter et qui vont t'amener à abandonner. Amen. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous de cultiver l'atmosphère qu'il faut autour de nous, de faire attention à ce qu'on écoute, de faire attention à ce qu'on regarde, de faire attention à nos fréquentations, de toujours avoir cette atmosphère de louange et d'adoration autour de nous, que ce soit au travers de la musique, mais aussi au travers de nos prières, au travers de notre attitude. Parce que la louange, ce ne sont pas juste des paroles. La louange, c'est un état d'esprit, c'est une attitude. Pareil pour l'adoration. Quand on dit « j'adore le Seigneur », ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un qui crie fort ou qui chante plus fort que tout le monde dans la salle, ça veut dire qu'il adore plus que les autres. Non, tu peux être calme, ne rien dire, les yeux fermés, mais tu es en train d'adorer le Seigneur parce que tu es connecté. Amen. Cette atmosphère-là, on doit la cultiver. Et cette atmosphère-là de louange nous aide énormément dans notre foi. Et dans la saison de la conquête des promesses dans laquelle nous sommes déjà, au temps de la conquête, tu auras besoin d'être dans cet état d'esprit-là. Parce que devant, t'attends le test. Devant, t'attends les difficultés. Devant, t'attends les conquêtes. Devant, t'attends Jéricho. Devant, t'attends Haï. Devant, t'attends Gabaon. Toutes ces villes que Josué et puis les Juifs ont dû conquérir. Et ils étaient beaucoup moins nombreux que ces villes-là. Mais chaque fois, ils prenaient le temps de se souvenir que Dieu était avec eux. Ils étaient remplis d'assurance et ils célébraient. Ils disaient, Dieu est avec nous. Il nous a déjà livré le pays entre nos mains. À la conquête des promesses. Est-ce qu'on peut dire avec moi à la conquête des promesses? Et aujourd'hui on va terminer avec le quatrième C que nous montre la parole. Le C, c'est le C de conquête. Le C de conquérir. Est-ce qu'on peut dire avec moi conquérir? Et le titre du message que je vais donner aujourd'hui pour qu'on puisse mettre un titre là-dessus, c'est embrasser l'esprit de conquête pour posséder votre héritage en Christ. Embrasser l'esprit de conquête pour posséder votre héritage en Christ. L'héritage en Christ, c'est-à-dire tout ce que la Bible nous décrit, est disponible. Tout ce que la Bible nous décrit, les promesses, etc., elles sont disponibles. Dieu n'a pas envoyé son fils aller mourir à la croix pour quelque chose d'imaginaire. Jésus n'avait que 30 ans. C'était un beau gosse, il était encore très jeune. Il aurait pu vivre très longtemps. Mais il a sacrifié sa vie pour chacun d'entre nous parce qu'il fallait que nous, les enfants de Dieu, qui avons été coupés de Dieu et qui avons perdu notre héritage, qui avons perdu le royaume des cieux à cause du péché de ton grand frère, Adam. Hein? Adam, quand il était en Éden, il a commis ce qu'on appelle une trahison. Et quand il a commis cette trahison, il nous a tous entraînés dans sa trahison. Donc il fallait que Christ puisse venir et nous reconnecter à Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Et pour ça, il fallait qu'il meure. Et gloire à Dieu, il est ressuscité. Amen. Et quand il est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé au niveau spirituel? Il a rendu notre héritage disponible. De quoi est composé notre héritage? La réponse, c'est tout. tout ce dont tu as besoin pour être épanoui sur la terre se trouve dans ton héritage, c'est-à-dire le royaume. Le royaume. Et le royaume, c'est ce que Jésus-Christ est venu annoncer. Le royaume, c'est la bonne nouvelle. C'est pour cela qu'on dit l'évangile de la bonne nouvelle du royaume. Le royaume, c'est la bonne nouvelle. Si Jésus-Christ est venu annoncer une bonne nouvelle, alors on est censé se réjouir, on est censé être heureux. Mais combien de chrétiens, combien d'enfants de Dieu vous trouvez dans les églises qui se réjouissent, qui sont heureux? On a plus l'impression qu'ils étaient plus heureux quand ils étaient encore dans le monde que quand ils sont venus dans l'église. Mais pourtant, on est censé être plus heureux quand on vient à Christ. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Si, c'est vrai. On est censé être plus heureux quand on vient à Christ. On est censé être plus épanoui quand on vient dans le Seigneur. Mais il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'ils ne sont pas heureux dans le Seigneur. C'est comme si on dirait qu'ils vivent leur foi forcée. Et que si on leur donnait la moindre occasion, ils partiraient. J'aime toujours prendre cette petite blague. Un pasteur un jour racontait que, imaginez qu'un jour, l'ange Gabriel vient sur la terre. Il se présente à tout le monde. Et l'ange Gabriel dit, aujourd'hui, Dieu a arrêté que désormais, chrétien ou pas chrétien, péché ou pas péché, tout le monde va au paradis. L'ange Gabriel vient et il lance cette nouvelle. Que tu sois chrétien, que tu sois homosexuel, que tu sois voleur, que tu sois assassin, même si tu as tué plus que Hitler, Dieu dit, tu vas au paradis. Vous irez tous au paradis. Est-ce que tu vas pécher? Est-ce que tu vas retourner dans le monde ou bien tu restes dans l'église? Hein? Dieu dit, la nouvelle est arrêtée. Désormais, tout le monde va au paradis. Est-ce que tu vas rester fidèle ou bien tu vas aller aussi, ou bien tu vas retourner dans le monde? Hein? Non, les promesses sont disponibles. La conquête, l'héritage est disponible. La conquête de l'héritage est disponible. On va un peu lire. On va un peu lire. Aujourd'hui, je pense qu'on va beaucoup lire. Ésaïe 55 au verset 8. Ésaïe 55 au verset 8. Il est écrit ceci. Parce que ce dont nous allons parler là, aujourd'hui, est quelque chose d'extrêmement important. Et ce passage va nous aider. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Une autre version de la Bible que l'on appelle français courant dit que, en effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez. Et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez qu'entre le ciel et la terre. C'est-à-dire, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ma façon de penser est élevée au-dessus de la vôtre. Je suis vraiment différent de vous. L'un des principaux problèmes, l'un des gros problèmes que Dieu rencontre avec ses enfants quand il veut faire de grandes choses dans leur vie, une fois que tu as donné ta vie à Christ, c'est la mentalité. La mentalité. Le plus gros obstacle, le plus grand obstacle que Dieu a avec ses enfants, c'est leur mentalité. Pourquoi? Parce que tout simplement, la plupart du temps, les gens n'arrivent pas à entrer dans la logique de Dieu parce qu'ils pensent que Dieu raisonne comme un homme. Dieu raisonne comme un religieux. La plupart des gens qui sont dans l'église sont des religieux. La plupart des gens qui vont à l'église vont à l'église par religion, vont à l'église par coutume, par habitude. Je suis né dans une famille chrétienne, papa et maman ont toujours l'habitude de m'emmener à l'église, alors je vais à l'église. Le jour où je n'ai pas envie d'y aller parce que je suis fatigué, je n'y vais pas. Que j'aille ou que j'aille pas, ça ne change rien à ma vie. Je fais ma vie. Quand on dit « ma vie t'appartient Seigneur », pour moi, bon, ça ne change rien. Alors que ça a une véritable signification tout ça. Dieu n'est pas religieux. Est-ce qu'on peut dire avec moi « Dieu n'est pas religieux » ? La plupart des gens pensent que Dieu est religieux. Dieu n'est pas religieux. La première personne qui déteste le plus la religion, c'est Dieu lui-même. Je choque quand je dis ça. Une fois que j'ai dit ça, il y a des gens qui m'ont dit, « Ah, gars, là, tu viens de te faire beaucoup d'ennemis. » Mais Dieu n'aime pas la religion. Parce que la religion, c'est l'homme qui cherche à aller vers Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Amen. Dieu n'a pas créé une religion. Dieu n'a pas créé une religion. Dieu a créé une créature qu'il a appelée homme, à qui il a donné ce qu'on appelle, ce que la Bible appelle en Genèse, la domination sur la terre. Genèse 1, 28, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Voici le but pour lequel l'homme a été créé. Si un jour on te demande pourquoi l'homme existe, pourquoi il a été créé, voici la réponse, pour dominer sur la terre. Et non pas pour dominer les uns sur les autres, mais dominer sur la terre. Et refléter la gloire, la majesté et la royauté de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi l'homme existe. Mais l'homme a perdu de vue ce but, cette vision. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu ramener, rappeler à l'homme. On va y revenir tout à l'heure. Dieu n'est pas religieux et Dieu n'a jamais créé une religion. Dieu a créé un royaume. Pourquoi Dieu a créé un royaume? Parce que Dieu, c'est un roi. La Bible nous présente toujours Dieu comme un roi. La Bible nous a toujours présenté Dieu comme un roi. Apocalypse 19 dit, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Le mot seigneur vient d'un mot grec que l'on prononce kurios, K-U-R-I-O-S, kurios. Le mot kurios, que l'on traduit par seigneur, et que l'on utilisait beaucoup au temps du Moyen-Âge, dans les pays occidentaux, lorsqu'il y avait encore des royaumes, le mot seigneur, le mot kurios, veut simplement dire propriétaire. Le propriétaire du domaine, le propriétaire du royaume, le seigneur, c'est-à-dire les terres, tout ce qui se trouve sur les terres, dont toi-même lui appartient. C'est pour cela qu'au temps des royaumes, les gens qui vivaient sur le royaume, sur les terres du roi, payaient ce qu'on appelle des taxes au roi. Juste des taxes pour pouvoir résider sur la terre du roi. Amen. Donc Dieu, c'est un roi. Il n'est pas religieux, loin de l'être. Et c'est le principal problème que Dieu rencontre avec les chrétiens. C'est que nous, aujourd'hui, pourquoi nous avons du mal, par exemple, pour des choses simples, pourquoi nous avons du mal à lire la Bible, pour beaucoup? Parce que quand tu ouvres la Bible ne te parle que de royaume. Dès que tu ouvres la Bible en Genèse, elle ne te parle que de royaume. La Bible est un livre rempli de guerre. Je n'ai jamais vu un livre autant rempli où il y a autant de guerres. Et ce sont des guerres entre qui et qui? Entre royaume et royaume, entre roi et roi. Oh, tel roi a attaqué tel royaume. Le roi David lui-même, il était roi. Il a passé sa vie à conquérir des royaumes, David. C'est d'ailleurs pour cela que Dieu lui a dit, tu ne construiras pas mon temple, parce que tes mains sont pleines de sang, de Samuel. Parce que tu as passé toute ta vie à tuer. Donc moi, je ne veux pas que tu construises mon royaume, mon temple. C'est ton fils Salomon qui va le faire. Dieu est un roi. Et le principal problème que Dieu rencontre avec les enfants de Dieu, c'est parce qu'ils ne pensent pas comme un roi, comme des rois. Un roi a une manière de penser qui est totalement différente des autres. Dieu ne nous a jamais appelés chrétiens. Bien que le mot chrétien ne soit pas un mot mauvais. Juste pour rappel, le mot chrétien, un jour, Paul, Philippe et les apôtres se trouvent, parce qu'en fait, Dieu savait en fait qu'on allait se demander un jour, nous les êtres humains, on allait se demander, mais qui nous a appelés chrétiens? Parce que je ne sais pas d'où vient ce mot chrétien-là. Tu es là, tu ne connais pas le Seigneur, et puis un jour, quelqu'un vient te parler de Jésus, et puis tu dis, ok, d'accord, j'accepte de donner ma vie à Jésus, maintenant tu commences à fréquenter l'église, et puis du jour au lendemain, quand on te demande, c'est quoi ta confession de foi? C'est quoi ta religion? Tu dis, non, je suis chrétien. Mais avant, tu ne parlais pas comme ça. Du jour au lendemain, tu te mets à parler, je suis chrétien. Le mot chrétien vient d'un épisode où un jour, Paul et Philippe arrivent dans une petite ville qu'on appelle Antioche. Et là, les païens, et là, André et les autres viennent dire à Paul, est-ce que tu sais qu'ici, on nous appelle chrétiens? C'est dans le livre des Actes. Et Dieu, sachant qu'on allait se poser cette question dans les siècles à venir, il a déjà répondu à la question. Et puis, Paul demande, qu'est-ce que cela veut dire? Et il dit, ça veut dire ceux qui suivent Christ. Parce qu'à leur époque, on ne le voit peut-être pas aujourd'hui, mais à leur époque, Jésus-Christ était pour les gens le baron d'une secte. Être chrétien, c'était faire partie d'une secte à l'époque. Donc, quand on voyait les gens qui appartenaient à cette secte, on les appelait chrétiens. Mais Dieu, lui, dans la Bible, ne nous a jamais appelés chrétiens. Et le mot chrétien qui veut dire ceux qui suivent Christ, donc ce n'est pas mauvais. Quand tu dis je suis chrétien, tu es en train de dire je suis quelqu'un qui suit Christ. Je suis un disciple de Christ. Donc ce n'est pas mauvais de dire que je suis chrétien. Mais Dieu lui-même ne nous a jamais appelés chrétiens. Dieu lui-même, lui, il nous appelle roi ou encore fils, sacrificateur. Dans le livre de Exode, Exode 19, au verset 5, Dieu dit cela au peuple juif de l'époque, une parole qui s'adresse aussi à nous. Il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous serez pour moi des rois et des reines d'une grande valeur. Une autre version française courant dit, vous serez pour moi un peuple avec un peuple précieux. Un peuple précieux. Un peuple qui est distingué. Donc sache que quand Dieu nous regarde, pour lui nous sommes distingués. Pour lui on n'est pas pareil que les autres. C'est pour cela que la chose la plus grave qui pourra arriver à un chrétien, c'est de se mêler à la masse, c'est de vivre comme un païen, alors qu'il est chrétien. C'est une tragédie. Tu es un enfant de Dieu, mais tu vis comme un païen. Tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es baptisé, tu as confessé Jésus, mais tu vis comme un païen. Tu fais même pire que les païens. Alors que Dieu t'appelle roi. Et l'identité des enfants de Dieu, ton identité et mon identité, c'est roi. Ce qu'on peut dire avec moi, je suis un roi, je suis une reine. C'est ce que tu es. Il y a des gens, quand tu leur dis ça, ils disent, oh, je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'étais dans le bus à Paris. Je me rappelle, j'étais très jeune, j'allais à l'école et puis je monte dans le bus et juste en face de moi, il y a un monsieur qui vient s'asseoir et il est en train de lire la Bible, et puis il a écrit sur la Bible, Bible des témoins de Jéhovah, Jérusalem, je ne sais pas quoi. Et à côté de lui, il sort les livres, la tour de garde des témoins de Jéhovah. Et puis je lui dis, bonjour Excellence. Il me fait, pardon. J'ai dit, bonjour Excellence. Il fait, comment vous m'avez appelé? J'ai dit, je vous appelais Excellence. Ah, ça, vous voulez que je change? Et je lui ai dit, ok. Bonjour, Majesté. J'ai dit, bonjour, Majesté. Et après, je rajoute encore, il fait, bonjour, Votre Altesse. Il fait, ah, vous, il se met en colère. Hein. Il fait, vous arrêtez de m'appeler comme ça, monsieur. J'ai dit, mais, c'est pas moi qui vous appelle comme ça. Il dit, pardon. J'ai dit, mais, c'est Dieu qui vous appelle comme ça. Il dit, jamais Dieu m'appelle comme ça. J'ai dit, mais si, monsieur. Il dit, jamais. J'ai dit, ah, donc ça veut dire que vous ne lisez pas bien votre Bible, monsieur. Il dit, si, je la lis tous les jours. Ah, mais j'ai l'impression que vous sautez les passages où on vous appelle comme ça. Vous voulez que je vous montre 2 Corinthiens 5, verset 17. Je vous appelle ambassadeur de Christ avec le ministère de la réconciliation. Et nous vous en supplions, réconciliez-vous avec Christ. Exode 19, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Apocalypse 5, verset 4. Seigneur, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et ils régneront à toujours sur la terre en tant que roi et sacrificateur. Donc la Bible t'appelle roi. Et Dieu a ce problème-là avec nous. C'est parce que tout simplement, nous ne pensons pas comme des rois. Et notre identité, c'est celle-ci. Donc, nous sommes nés au Gabon. Pour parler du Gabon, pour la plupart d'entre nous, nous sommes nés dans des systèmes que l'on appelle des démocraties. Le Gabon est une démocratie que nous a donnée la France. Nous sommes dans des républiques. Donc, quand tu te tiens devant l'église et que tu commences à parler de roi et de royaume, tu es un extraterrestre. On dit, mais d'où il sort celui-là? Il nous parle de roi et de royaume. On est au Gabon, papa. On est gouverné par un monsieur qui s'appelle Ali Bongo Ondimba. On est dans une démocratie. On n'est pas dans un royaume ici, monsieur. Mais Dieu dit que toi, enfant de Dieu, tu es né ni de la volonté de la chair ni de l'homme. Tu es né du Saint-Esprit. Et depuis le jour où tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu t'appelle mon enfant. Frère de Jésus-Christ, c'est-à-dire roi aussi. Amen. Et c'est le principal problème que Dieu rencontre. Nous sommes des rois et nous sommes des fils. Quelle est la différence entre un fils et un roi? Je vais vous la donner. Il y a 3 choses qui caractérisent un fils. Parce que Dieu nous appelle fils et Dieu nous appelle roi. Tu es fils. tu es fille. Et quand Dieu dit que tu es fils, la première chose qui caractérise le fils, c'est qu'il est dans l'intimité de son père. Amen. Le fils est dans l'intimité de son père. Le fils est différent des autres. Il peut avoir plusieurs personnes dans la maison, mais le fils, lui, il n'a pas besoin de cogner avant d'entrer. Il peut rentrer dans l'intimité de son père sans problème. Lorsque je suis en train de travailler à la maison, dans la chambre, ma fille vient et puis elle saute sur moi sans me demander mon autorisation. Elle sait que ça me dérange, mais elle sait que je ne peux pas lui faire de mal parce qu'elle est dans mon intimité. Elle est dans l'intimité du père. La première chose qui caractérise le fils, c'est cela, c'est qu'il est dans l'intimité. La deuxième chose qui caractérise le fils, c'est qu'il est le reflet du père. Le reflet du père. La Bible nous dit dans Hébreux 1:3 que le fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il soutient l'univers par sa parole puissante. Une autre version dit, le fils reflète sa gloire d'une manière éclatante et constitue l'empreinte exacte de son être, l'expression parfaite de sa nature. Est-ce qu'on peut dire avec moi, il parle de moi ici? Il parle de toi là. Il ne parle pas juste de Jésus-Christ, il parle de toi. Tu es l'expression exacte, l'empreinte parfaite de Dieu. C'est-à-dire, tu es capable aujourd'hui, sans prétention, de te tenir devant les gens. Et quand les gens disent, ok, montre-nous Dieu, tu leur dis, voici Dieu. Dieu, c'est moi. Comment tu peux dire que Dieu, c'est toi? Non, je suis l'expression parfaite de Dieu. C'est ça, en fait. Quand la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, la sagesse infiniment variée, l'Église de Dieu. C'est-à-dire, le monde veut voir Dieu. Et quand le monde veut voir Dieu, le monde doit regarder à l'Église. Quand le monde dit à Dieu, Dieu, révèle-toi à nous. Dieu dit, regardez mon Église. Mais est-ce que l'Église aujourd'hui peut se lever et dire, nous reflétons vraiment la personne de Dieu? À titre individuel et en tant que communauté. Le Fils. Et il dit encore, Romains 8, 29, il dit, en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Le mot semblable ici vient d'un mot grec que l'on prononce symorpho, qui veut dire conforme, c'est-à-dire pareil. Lorsque Christ est allé à la croix, il était le Fils unique. Mais depuis qu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui et nous constituons aujourd'hui ce qu'on appelle la famille de Dieu, l'Église. C'est-à-dire, nous sommes tous en Christ, nous sommes les enfants de Dieu. Donc, Christ n'est plus fils unique. Nous sommes ses frères et ses sœurs. Et nous sommes tous pareils que lui, exactement pareils que lui. La troisième chose qui caractérise le fils, c'est qu'il est l'héritier du royaume. Lorsque Dieu dit « Je suis roi », il est en train de dire que l'héritier de mon trône, c'est toi. L'héritier du royaume, c'est toi. Maintenant, il y a une particularité ici, c'est que quand on étudie les histoires de royauté, on se rend compte que d'une chose très importante, c'est que tant que le père et le fils demeurent au même endroit, l'un des deux ne peut pas exercer sa royauté. L'un des deux ne peut pas régner. Le fils ne peut pas régner. C'est pour cela qu'à l'heure actuelle, en Angleterre, tant que la reine d'Angleterre n'est pas morte, le prince Charles ne peut pas monter sur le trône. Le gars, il est en train de vieillir, il a déjà les cheveux blancs, il est en train de dire, mais maman, tu vis trop longtemps, laisse-moi un peu régner. Mais elle ne veut pas mourir, elle est encore en pleine forme. Même aux derniers Jeux Olympiques en Angleterre, elle a sauté par un hélicoptère. Enfin, ils ont fait une simulation. Donc, tant que le père et le fils demeurent sur le même territoire, le fils ne peut pas régner. Donc, lorsque le fils se pointe et vient voir son père en disant, écoute papa, moi aussi je veux régner en tant que roi, le père est obligé de le détacher sur un autre territoire pour que là-bas aussi il soit roi. Donc quand il va dans son territoire à lui, il est roi. Mais lorsqu'il vient en vacances chez son père ou en visite, il redevient prince. Parce qu'il ne peut pas avoir deux rois sur la même terre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pour cela que quand Jésus-Christ dit je suis roi, Jésus-Christ devient un problème politique. C'est pour cela que quand on est en train de crucifier Jésus, quand vous lisez la Bible, le peuple crie, il a dit qu'il est roi. Et nous n'avons qu'un seul roi, César. Donc, il ne peut pas être roi. S'il dit qu'il est roi, ça veut dire qu'il se ligue contre le pouvoir en place. Donc, il faut le crucifier, lui. Haute trahison, coup d'État qu'il est en train de faire, ce gars-là. Jésus-Christ n'était pas un problème religieux. Jésus-Christ était un problème politique. Amen. Donc, l'héritier des promesses, le fils, la fille, est aussi roi, mais est obligé d'aller dans un autre endroit. Et c'est pour cela que lorsque Dieu te crée, et lorsqu'il me crée, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te crée esprit à son image, Genèse 1, 26, et ensuite, Genèse 2, au verset 2, la Bible dit qu'il prit de la poussière du sol et il forma un corps à chacun d'entre nous. Et il nous a détachés où? Sur la terre. C'est pour ça que quand Jésus-Christ, quand les disciples viennent dire à Jésus, comment devons-nous prier? Jésus-Christ leur dit, quand vous priez, dites notre Père qui est où? Parce que le Père qui est roi, son domaine à lui, c'est les cieux. Et les fils, ils règnent où? Sur la terre. Les fils règnent sur la terre. C'est pour ça que quand Dieu te regarde, quand un roi regarde son fils, il lui dit, va et règne. Fais comme moi. Règne. Ce que tu me vois faire chez moi, va et fais la même chose chez toi. Et quand Dieu te regarde, c'est ce qu'il est en train de dire. Règne. Maintenant, tu règnes où? Tu règnes sur qui? Tu règnes sur quoi? Ça, c'est un autre enseignement. Règne dans ton domaine. Règne dans ton domaine de compétences. Règne dans ton domaine de leadership. Règne, reflète la gloire de Dieu au travers de ta vie. Quand les gens te voient, que les gens puissent dire gloire à Dieu. Règne, manifeste tous les dons et les talents que j'ai déposés en toi. Manifeste la gloire de Jésus-Christ au travers de ta vie. Règne. Amen. Donc le fils, troisième caractéristique, est héritier. Qu'est-ce qui caractérise maintenant le roi? Parce que nous sommes aussi rois. La première chose qui caractérise le roi, c'est qu'il est roi par son droit de naissance. Il est né roi. On ne peut pas discuter ça. Il est né roi. La deuxième caractéristique du roi, c'est que sa priorité, c'est son royaume et le bien-être de ses citoyens, en ce qui concerne le Père. Mais sinon, c'est son royaume. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 6, 33 que la priorité du Père, c'est son royaume. Et vous aussi, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement quoi? Cherchez premièrement le royaume. Je ne l'ai pas écrit. Cherchez premièrement le royaume. La priorité de tout enfant de Dieu doit être le royaume de Dieu. Pas autre chose. Et la troisième chose qui caractérise le roi, c'est qu'il est habité par l'esprit de conquête. Est-ce qu'on peut dire avec moi l'esprit de conquête? L'esprit de conquête. Et dans la saison de la conquête des promesses, si tu n'acquiers pas cet esprit-là, cet esprit de vainqueur, cet esprit de conquérant, cet esprit de battant, tu n'y arriveras pas. Et malheureusement, je vous assure, je le dis vraiment un peu avec tristesse, c'est que malheureusement, quand on regarde les chrétiens aujourd'hui dans les églises, cet esprit de conquête-là, ils ne l'ont pas. Les païens ont plus cet esprit-là dehors que dans l'église. Dans l'église, on trouve des gens qui sont mous, des gens qui sont endormis, assoupis, des gens qui ne rêvent pas grand. Quand on parle business, quand on parle économie, quand on parle culture, quand on parle des sujets intéressants, les chrétiens sont incultes. Les chrétiens ne sont pas intelligents. Les chrétiens ne se battent que pour les miettes. Mais le païen, lui, quand il commence à rêver, il rêve grand. Il rêve grand, il veut conquérir les territoires. Quand il dit, par exemple, je vais créer une chaîne de télévision, il dit, moi, je ne crée pas la petite chaîne de télévision que l'on diffuse. Et puis, quand vous regardez la chaîne de télévision, il y a plein de parasites. Il vous suffit juste d'allumer les radios quand vous êtes en voiture. Mettez un peu les radios chrétiennes et mettez les radios païennes. Voyez un peu la différence. Voyez comment les radios païennes, c'est clair, c'est propre, c'est excellent. Mais quand vous mettez les radios chrétiennes, oh mon Dieu. Mon Dieu. Cette semaine, j'étais en train d'écouter une radio. Et puis, il y avait une dame qui faisait un témoignage. Oh, un démon me possédait. Oh, un... Non, mais les mots qu'elle a utilisés, je ne peux pas les utiliser sur l'estrade. Parce qu'elle dit, lorsque le démon est venu dans ma chambre, j'ai commencé à trembler. Et puis, j'ai commencé à faire mes besoins toute seule dans ma chambre. Et puis, elle commence à donner la description de comment elle faisait ses besoins. J'ai dit, oh, à la radio! On ne fait pas ça. Je me dis, mais j'avais envie de dire à l'animateur, mais interromps-la. Elle ne peut pas parler comme ça à la radio. Et puis elle donne des descriptions, elle donne des couleurs. J'ai dit, oh, puis j'étais obligé de changer. J'ai dit, oh, vraiment, ça c'est quoi? Radio chrétienne. Et puis quand elle finit son témoignage, l'animateur fait, oh, gloire à Jésus. Non, pas gloire à Jésus avec un truc pareil. Pas gloire à Jésus. Et ils les mettent sur des grandes zones. Et lorsque les païens tombent dessus, le païen écoute, il dit, oh là là, vraiment ces chrétiens-là, ils sont retournés, hein, ces gens-là, c'est pas possible, oh là, ils sont retournés. Vous mettez les chaînes de télévision chrétiennes, c'est médiocre. Mais le païen, lui, quand il rêve grand, il rêve esprit de conquête. Dès qu'il a atteint le niveau qu'il fallait, il crée une deuxième chaîne, puis une troisième, ensuite il crée une radio, ensuite il sort un magazine, etc., etc. Quand vous arrivez dans l'église, combien de gens vous trouvez qui sont au chômage? 80% de l'église remplie de gens qui sont au chômage. Quand on demande qui veut créer son entreprise, personne ne lève la main. Qui veut postuler dans une administration, tout le monde lève la main pour être fonctionnaire. Voilà, on vient de vous couper les fonds communs. On va voir si vous allez encore aller. Hein? On vient de vous couper les fonds communs. On va voir si vous allez encore courir. Eh oui. Qui veut créer son entreprise? Qui veut être riche? Tout le monde va lever la main. Mais qui veut faire ce qu'il faut pour devenir riche? Ah, tu sais, c'est compliqué, là, l'entrepreneuriat. Franchement, il y a les chats, il y a les enfants. Ou bien j'ai mon boulot, mais bon, je fais un petit business dans le quartier, tu vois. Puis on verra après ce que ça va donner, tu vois. Non! C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Amen, on avance, parce que vraiment... Donc, la mentalité, l'esprit de conquête, c'est l'esprit qui habite en nous. Qu'est-ce que l'esprit de conquête? Dieu dit que dans Romains 8, verset 11, que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite où? En vous. Le Saint-Esprit est l'esprit de conquête. Le Saint-Esprit est l'esprit d'excellence. Le Saint-Esprit est l'esprit de vie. Le Saint-Esprit est l'esprit de créativité, l'esprit de sagesse. On lui donne toutes sortes de noms. Il est parfait. Et Dieu dit que cet esprit-là, mon esprit, je l'ai déposé en toi. Donc je t'assure que tu ne peux pas désirer les miettes de la vie quand tu as un tel esprit qui habite en toi. Tu dis, Seigneur, même si aujourd'hui je vis dans la misère, même si aujourd'hui je vis dans la difficulté, mais je refuse. Je vous assure que c'est sans prétention que je dis ça. Mais le jour où j'ai compris ça, je me suis levé, je suis allé voir mon épouse et puis j'ai dit, je ne peux pas être pauvre dans la vie. Je refuse ça. Jésus-Christ a payé un prix trop fort. Je ne peux pas. Parce que quand tu rentres dans la révélation de la parole, en toute humilité, tu dis, Seigneur, je te rends grâce pour la vie que j'ai. Mais Seigneur, je refuse les miettes de la vie. Je veux être épanoui. Je veux être heureux. Je veux le plus possible dans la vie. Je veux pouvoir être rassasié de jour, comme on dit dans la Bible. Je veux pouvoir, avant de mourir sur mon lit, dire au revoir à chacun de mes enfants et puis dire, ah, j'ai vécu. Les enfants, maintenant, continuez la tâche. Moi, je m'en vais maintenant. Ce n'est pas la vie qui a été toute la vie. C'était toujours la lutte, la tension, la goutte, etc., etc. Ce n'est pas ça, la vie. Ce n'est pas ça. Il faut désirer plus. L'esprit de conquête. Donc, la première chose que Dieu commence à changer dans notre mentalité quand nous venons à Christ, c'est notre mentalité. Christ lui-même, dans Matthieu 4, 17, quand il commence son ministère, la Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le mot repentez-vous ici, le mot repentir, est un mot grec que l'on prononce métanoïa, qui veut simplement dire, changez votre façon de penser. Parce que Jésus-Christ se tenait devant des gens qui pensaient comme des esclaves. Parce que Jésus-Christ, à l'époque où il prononçait cette parole, au temps des Juifs, le peuple juif était sous esclavage romain. Donc c'était des esclaves. Et tu viens dire à un esclave qui souffre, qui galère, tu es un roi. Il te regarde et dit, mais vraiment, mais papa, tu vois pas que je suis esclave? Tu es roi, un roi en esclavage, vraiment. C'est le principal problème que Dieu a rencontré avec le peuple juif quand ils sont sortis d'Égypte, avec Moïse. Dieu disait, voilà, vous allez à Canaan, la terre promise où coule le lait, le miel, etc. Mais eux, ils passaient leur temps à se plaindre. Oh, pourquoi ne sommes-nous pas morts en Égypte? Oh, pourquoi ne retournons-nous pas en Égypte? On était bien là-bas, on nous nourrissait. Il y a un épisode qui me fait toujours rire, c'est quand ils disent, on en a marre de la manne. On ne veut plus manger la manne. Je crois que c'est dans Nombre, chapitre 12. On en a marre de la manne. Oh, en Égypte, on était bien, on nous donnait de la viande. Et puis Dieu dit à Moïse, ok, je vais vous donner de la viande. Je vais vous donner de la viande et vous allez en manger tous les jours jusqu'au 1er au 31. Et Dieu rajoute, ce sont les paroles, c'est écrit dans la Bible, vous allez en manger jusqu'à ce que ça sorte de vos narines. Tellement vous m'avez énervé, tellement vous m'avez mis en colère. Et Moïse dit, oh Seigneur, pardonne à ton peuple. Il dit non. Et à cause de leur attitude, ce peuple à qui est sorti d'Égypte, ils ne rentreront pas sur la terre promise. Je vais attendre qu'ils meurent, même si cela prend 40 ans. Ce sont leurs enfants qui vont rentrer à Canaan. Mais ceux-là, la mentalité d'esclave là, c'est bon, même moi Dieu, je renonce. Je ne peux plus continuer à essayer de les convaincre. Parce que c'était des esclaves. Et c'est le problème aussi que Dieu rencontre avec nous. On est dans un pays où on a toujours cultivé la mentalité de fonctionnaire, la mentalité de pauvreté, la mentalité de juste assez. Et le jour où tu viens à Christ, on te parle de royauté, on te parle de conquête, on te parle de domination, on te parle de toutes ces choses-là. Mais pour toi, c'est un langage qui est étranger. Imaginez que le prince William d'Angleterre, que l'on est en train de préparer au trône, avait toujours vécu au Congo. Il est né au Congo, il a vécu au Congo et il a été esclave au Congo. Et à l'âge de 30 ans, la reine détache un émissaire qui vient le voir et qui lui dit « Mais est-ce que tu sais qu'en fait tu es roi et que le trône t'attend en Angleterre ?» Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Ou bien imaginez Tarzan, que l'on a vu à la télévision, il a toujours vécu avec les gorilles et les chimpanzés. Et puis on va lui dire, Tarzan, tu es un être humain, arrête de te comporter comme un gorille. Ouh, je suis un chimpanzé. Oui, la mentalité, c'est difficile. Il va falloir faire tout un travail en profondeur pour pouvoir changer sa mentalité. Et c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. Amen. Donc Dieu prend le temps de nous réapprendre à penser comme des rois. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons partie de la famille royale des cieux. Je fais partie de la famille royale. Est-ce qu'on peut dire ça avec moi? Je fais partie de la famille royale des cieux. Oh oui, je fais partie de la famille royale des cieux. Le jour où David a compris ça, David a prononcé une parole que j'aime beaucoup. Il dit, il m'environne de sa grâce comme d'un bouclier. L'ange de l'Éternel campe autour de moi et m'arrache à tout danger. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que le jour où il comprend que c'est le fils du roi, il est fils de roi, il comprend que le fils du roi ne se déplace jamais seul. Le fils du roi se déplace toujours avec des escortes. Toujours. Et c'est pour cela que quand tu marches dans la rue, la journée, quand tu vas au travail, tu ne le vois peut-être pas, mais tu ne sais pas, les anges sont là à côté de toi et ils campent autour de toi et te protègent. Parce que Dieu dit, il y a un diplomate qui est en train de se déplacer, il faut qu'on l'escorte. Sauf que dans le royaume de Dieu, on est sage, on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit quand un officiel se déplace. Ce n'est pas comme dans nos pays là. Quand un officiel se déplace, il faut que toute la circulation s'arrête. Tu vois, les gendarmes, là, quand ils passent, ils te tapent sur la voiture, mais écarte-toi, etc. Non. Dans le royaume, tu marches, tu es seul, mais tu es en sécurité parce qu'il y a des myriades et des myriades d'anges qui campent autour de toi. Amen. Et un enfant de Dieu doit penser comme un roi. Et Dieu, lui, ce qu'il fait lorsque nous venons à Christ, c'est de nous réenseigner, de nous réapprendre à penser comme des rois. C'est pour cela que l'enseignement est très important. C'est pour cela qu'il faut être enseigné. Et lorsqu'on n'est pas enseigné, Dieu a du mal à travailler avec nous. Lorsqu'on a la mentalité d'esclave, Dieu a du mal à travailler avec nous. Et pour reprendre l'exemple du prince William et du prince Harry, lorsque le prince William et le prince Harry sont venus au monde, il y a quelque chose de très particulier qui s'est passé, c'est que quand par exemple le prince William va au monde, on le met entre les bras de sa maman, d'accord ? Et puis son papa est très content, etc. Il resta quelques heures avec la mère. Il ne reste pas quelques heures, voire une journée. Mais après, vous savez ce qui se passe? C'est qu'une fois qu'il rentre à la maison, il y a un groupe de personnes, et une personne en particulier, à qui on remet l'enfant. C'est-à-dire, l'enfant vit dans la maison de papa et maman, mais il a ses quartiers à lui où il vit en permanence avec un major d'homme. Il vit en permanence avec quelqu'un que l'on appelle un tuteur royal. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a la tâche et la lourde mission de faire son éducation royale. C'est-à-dire, on l'apprend à se tenir, on l'apprend à parler, on l'apprend à tenir les fourchettes et les assiettes à table, on l'apprend à se vêtir, on l'apprend le langage, on lui apprend tout. Parce qu'il faut qu'il pense comme un roi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et cette personne-là est très importante. C'est quelqu'un qui, quand l'enfant va à l'école, il est avec lui. Moi, par exemple, ma fille aime toujours regarder un dessin animé que l'on appelle la princesse Sophia. Elle aime trop ce dessin animé-là. Et dans le dessin animé en question, la princesse Sophia, c'est sur Disney. La princesse Sophia, à chaque fois qu'elle se déplace, elle est toujours avec un monsieur, un grand monsieur comme ça, qui est toujours avec elle. Et ce monsieur, elle lui dit, mais rentre, je peux m'amuser toute seule. Il dit, non, 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 je suis là, madame, parce que ma tâche, c'est de rester avec vous et de veiller à votre éducation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le roi, le fils, le prince, on lui détache un tuteur royal qui va s'occuper de son éducation royale. Et quand nous venons à Christ, la première chose que Dieu fait, c'est de nous donner un tuteur royal. Et ce tuteur royal, c'est qui? C'est Sa Majesté le Saint-Esprit. C'est lui le tuteur royal. Est-ce qu'on peut dire amen? Et le rôle du Saint-Esprit, c'est ça. C'est de nous rééduquer. C'est pour cela que Jésus-Christ dit dans le livre de Jean, le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi et vous l'enseignera. Il vous conduira dans tout ce que vous devez faire. Il vous dira tout ce qu'il faudra dire, etc., etc. Éphésiens 4, verset 30, nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire votre tuteur royal que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Pourquoi? Parce que les rois ne crient pas. Les rois n'insultent pas. Les rois ne se mettent pas en colère en désordre. Les rois sont bien élevés. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le roi a une manière d'être, de penser. Et le Saint-Esprit est là pour veiller à cela. Le roi n'a pas les mêmes plaisirs qu'un mondain. Et il rajoute, abstenez-vous de toute forme de méchanceté, parce que le roi est quelqu'un qui est bon de nature. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Et le Saint-Esprit est le tuteur royal. Est-ce qu'on peut dire avec moi le tuteur royal? C'est son rôle. Et il est là pour veiller à cela. Et le Saint-Esprit, quand Dieu nous le donne pour finir, quand Dieu nous le donne, il est là pour veiller à ce que l'esprit de conquête soit en permanence ancré en nous. Et quand tu vas aller dehors pour pouvoir prendre possession de ton héritage, pour pouvoir travailler et combattre pour prendre possession de ton héritage, le Saint-Esprit sera là pour veiller à ce que tu gardes cette attitude-là, cet esprit de conquête. Voici quelques points que le tuteur royal peut t'enseigner. Le tuteur royal, le Saint-Esprit, t'enseigne comment nous tenir dans notre autorité royale de fils et de filles de Dieu quand nous faisons face aux difficultés de la vie. Comment y faire face? Comment contrôler les circonstances et influencer notre environnement et non les laisser nous contrôler comme des esclaves? Le tuteur royal nous enseigne aussi à comprendre le but pour lequel nous avons été créés en Christ. Genèse 1, 28. La domination, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Le tuteur royal est là pour toujours te rappeler ça, que ta vie, c'est de régner. Dans le mot domination, il y a le mot don et il y a le mot domaine. C'est-à-dire, ta domination, tu dois l'exercer. Ta domination, c'est exercer ton don dans un domaine. Tu dois exceller dans un domaine. Il y a un domaine dans lequel Dieu t'a appelé, où ton leadership doit être révélé, où tu dois exceller, où tu dois être épanoui, où tu dois être une source de bénédiction pour les autres. Il y a un domaine, chacun d'entre nous, où Dieu nous a appelés. Et le Saint-Esprit, le tuteur royal, est là pour veiller à cela. Comment élargir notre perception du monde et penser grand, sans cesse élargissement, prendre des territoires? Comment parler comme un roi? Comment est-ce qu'un roi parle? Un roi, quand il parle, il décrète, il ordonne, il pose des jugements. C'est pour cela que quand tu pries, il y a des prières d'action de grâce où tu remercies. Mais quand tu vois que la maladie attaque ton enfant, tu ne viens pas prier des prières d'action de grâce. La Bible dit que quand Jésus-Christ arriva chez la mère de Pierre était atteinte d'une fièvre. Elle était couchée sur son lit. La Bible ne dit pas que Jésus a rendu grâce, comme avec l'épisode des pains. Non. La Bible dit que Jésus a menacé la fièvre. Menacer, ça veut dire « Sors d'ici, sinon je te fais ça dire, sors !» Et la fièvre obéit tout de suite. Voilà comment un enfant de Dieu doit se comporter. Et le Saint-Esprit, le tuteur royal, est là pour veiller à cela. Quand tu as un projet entre les mains, tu as un dossier, tu veux ouvrir ton business, ou bien tu as un dossier au travail, tu sais que la porte doit s'ouvrir pour toi. Tu sais que cette porte doit s'ouvrir. Tu n'es pas là en train de planifier devant le Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, la promotion, s'il te plaît. Non. Tu prends possession de ton héritage et puis tu dis, je décrète dans le nom de Jésus-Christ que cette affaire-là est pour moi, par la foi. Je décrète dans le nom de Jésus-Christ que cette porte s'ouvrira. Je décrète dans le nom de Jésus-Christ qu'il ne m'arrivera rien, que le malheur n'atteindra jamais le seuil de ma porte. Je décrète dans le nom de Jésus-Christ que l'ange de l'Éternel campe autour de toute ma famille et qu'il nous arrache à tout danger, au nom de Jésus-Christ. Un jour, il y a une femme en Côte d'Ivoire, c'est un pasteur ivoirien qui racontait ça, elle était dans le bus, assise tranquillement. Et puis là, dans le bus, il y a un costaud monsieur qui monte. Elle est assise un peu dans le fond avec d'autres personnes à côté d'elle. Et le monsieur vient, il fait semblant de vouloir descendre et au moment où la porte s'ouvre, il arrache le sac de la femme. Et quand il veut arracher le sac de la femme, elle aussi, elle attrape aussi son sac. Elle dit, non, laisse mon sac. Et puis, il veut arracher. Et tout le monde dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, dans la bagarre, elle tire son sac. Il veut commencer à la frapper. Elle esquive. Quand il la frappe, elle se relève. Et puis, elle dit, au nom de Jésus, je te lis tout de suite. Le gars est tombé raide par terre. Boum. Véridique, hein. Il est tombé raide par terre. Tout le monde est resté là. Mais, oh, qu'est-ce qu'elle lui a fait, le monsieur? La police est venue, les gens sont venus, le monsieur était raide par terre, on a dû l'emmener à l'hôpital, on ne savait pas ce qu'il avait. La dame a été emmenée au commissariat, garde-vous, on lui a dit, qu'est-ce que vous avez fait au monsieur? Elle dit, je l'ai lié. Le policier dit, mais déliez-le. Elle dit, je sais comment le lier, mais pour le délier, je ne sais pas. Parce que la Bible dit, ce que vous délirez, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Donc, c'est, moi je peux délier, mais il faut qu'eux ils délient aussi. Hein. Donc si eux ils ne veulent pas délier, moi je ne sais pas. Ils ont dit, mais délie-le madame, sinon on vous met en prison. Ah, je ne sais pas si c'est écrit dans le code civil qu'on met les gens en prison parce qu'ils ont lié par la prière quelqu'un. Moi je ne sais pas, mais en tout cas il a voulu voler mon sac, moi je l'ai lié. Ça l'apprendra. Amen. La conquête des promesses, l'esprit de conquête. Embrasser l'esprit de conquête est ce que Dieu nous demande d'avoir. Pour finir, la conquête des promesses, c'est pour ceux qui ont accepté le mandat de domination et qui ont revêtu l'armure des conquérants pour prendre possession de leur Canaan. Et cette année, chacun d'entre nous, nous devons prendre possession de notre Canaan. Chacun d'entre nous, on doit augmenter. On doit passer à une autre dimension. Refuse de voir la fin de l'année comme elle a commencé. Refuse-la. Pose des actes. Travaille. Pose des actions. La conquête des promesses, ce n'est pas pour les faibles. Parce que, tout comme Josué et les Juifs sont partis combattre, s'ils avaient été faibles là-bas, ils seraient morts. Ils ont dû combattre. Et j'ai pour habitude de dire que ce n'est pas parce que tu mérites le meilleur dans la vie que la vie va te le donner facilement. Tu vas devoir te battre pour obtenir ce qu'il faut dans la vie. Tu vas devoir travailler. Si tu es un pleurnichard, tu resteras pleurnichard et les autres te laisseront derrière. Tu vas devoir te battre. Parce que la vie, elle n'est pas facile. Et la vie, elle va te faire ça dur. La vie, elle va te combattre. Tu vas devoir te lever. Si tout le monde arrive au travail à 11h, toi tu sais qu'il faut que tu arrives à 7h parce qu'il faut que tu bosses. Si les gens attendent les fonds communs pour pouvoir avoir de l'argent, tu dis, moi je n'attends pas les fonds communs pour avoir de l'argent, je travaille. Et si le salaire que je gagne ne suffit pas, alors je monte un business à côté. Et je fais tout pour que ce business, je puisse en vivre. Amen. Si mon enfant vient me voir un jour en me disant, papa, je ne sais pas comment tu vas faire, mais moi, plus tard, je veux aller à Harvard. Donc, débrouille-toi parce qu'à 18 ans, je vais à Harvard. Tu sais que lui, il faut qu'il aille à Harvard et tu vas devoir travailler pour l'envoyer à Harvard. Est-ce qu'on me suit? Tu vas devoir te battre parce que tu veux le meilleur pour la vie. La conquête des promesses est pour ceux qui sont prêts à payer le prix, à se sacrifier, à briller. La conquête des promesses, c'est pour ceux qui ont choisi de mettre en action leur foi et de faire confiance à Jésus-Christ. De marcher par la foi. Le juste, la Bible dit, il marche par la foi, il vivra par la foi. Et si on te dit au Gabon ce que tu veux faire, ce à quoi tu te prépares là, ce n'est pas possible, tu dis, moi j'y arriverai. Et je serai un exemple pour les plus jeunes qu'on peut y arriver. C'est possible. Amen. Oh oui. On va finir avec cette parole de Ésaïe 60, verset 4. 60, verset 1. Debout, Jérusalem. Tu prends Jérusalem et tu mets ton nom. Debout, Luc, brille de mille feux, car la lumière se lève sur toi. La glorieuse présence du Seigneur t'éclaire comme le soleil. Les promesses sont disponibles parce qu'elles sont inscrites dans l'Alliance. Tu vas dans la parole, tu vas dans l'Alliance et tu prends la promesse qui te concerne. Tu l'écris sur un papier, tu célèbres la Pâque, c'est-à-dire tu danses et puis après tu te mets à décréter. Et quand tu as fini de décréter, c'est-à-dire préparer l'atmosphère, tu as disposé l'atmosphère, maintenant tu dis, maintenant Seigneur, on se met au travail. Et quand on se met au travail, tu ne travailles pas au hasard, tu travailles parce qu'en sachant que ça va s'accomplir, la porte va s'ouvrir et je réussirai. Amen. Oh oui. Et quel que soit le domaine, hein, quel que soit le domaine, il y a des domaines professionnels, mais il y a aussi les domaines personnels. Tu es stérile. Les gens t'ont toujours dit que tu étais stérile. Les gens t'ont toujours dit que tu ne peux pas avoir d'enfant. Mais bien, voici une promesse que la parole de Dieu nous donne. Ésaïe 60, verset 4, elle dit, regarde bien autour de toi et vois tous tes enfants. Ils viennent et se rassemblent auprès de toi. Tes fils arrivent de loin. On ramène tes filles en les portant dans les bras. Tu prends cette promesse et tu dis, Seigneur, comme dit également le psaume 113, verset 9, il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Est-ce qu'on peut coller le mot stérile avec mère joyeuse? Ce n'est pas possible. Mais dans le royaume, Dieu dit que si. La stérile peut devenir une mère joyeuse au milieu de ses enfants. C'est une promesse. La conquête des promesses, c'est pour ceux qui ont cette foi-là que c'est possible. Qui ont cette foi-là que l'année, cette année, est leur. Ils la possèdent. Ils ont embrassé l'esprit de conquête et ils décident de travailler à l'accomplissement des promesses dans leur vie. Amen. Ils marchent dans le naturel, ils opèrent dans le surnaturel. Ils savent que Dieu, c'est quelqu'un qui travaille avec la foi. Et même si les circonstances autour de toi te disent le contraire, tu sais que par la foi, j'y arriverai. Gloire à Dieu. Et ma prière aujourd'hui, c'est que tu puisses, après tous les enseignements qu'on a reçus, après toutes les paroles qu'on a reçues, comment dire, boucler la boucle avec ça, en te disant que c'est possible d'y arriver. C'est possible de vivre les promesses auxquelles je m'attends. C'est possible d'être épanoui. C'est possible de me tenir à la fin de l'année en apportant un témoignage, en disant voici ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est possible de se tenir devant les gens en disant je suis un chrétien, mais je suis un chrétien heureux, épanoui. Et je t'assure, si tu veux avoir la même vie que moi, viens à Christ. Amen. On va incliner la tête. Et je voudrais que tu pries, que tu élèves la voix et que tu dises au Seigneur, Seigneur, dans ta parole, il y a inscrit des promesses. Il y a inscrit tout un tas de choses. Moi, je veux vivre la réalité de la Bible. Moi, je veux vivre la réalité de Dieu. Je veux vivre la réalité de l'alliance. Si cette alliance-là que tu as tissée avec Christ est réelle, alors je veux la vivre. Je veux la vivre. Ta parole nous montre aussi que les apôtres travaillaient. Ils travaillaient. Et Dieu travaillait avec eux et confirmait sa parole par des miracles et des prodiges. Seigneur, je n'ai pas besoin peut-être de voir des paralytiques marcher dans ma vie, mais je veux vivre cette dimension du miracle là dans ma vie, où les gens disent, comment tu fais? Et moi, je leur répondrai, c'est Dieu dans ma vie qui le fait. Parce que dans ma vie, j'ai un tuteur royal qui s'appelle le Saint-Esprit, qui sème en moi cet esprit de conquête, cette mentalité de roi et de fils et non d'esclave. Peut-être que lorsque je suis venu au monde, spirituellement parlant, j'étais encore esclave. J'avais encore cette mentalité d'esclave que j'avais ramenée du monde. Mais depuis que je suis en Christ, depuis que j'opère dans l'Église, depuis que je suis appelé enfant de Dieu, Seigneur, j'embrasse maintenant l'esprit de conquête. J'embrasse maintenant la mentalité de roi et je décide de prendre possession de mon héritage en Christ. Mon héritage en Christ est disponible. Mon héritage en Christ, je le possède. Mon héritage en Christ est mien. Et dans tous les aspects de ma vie, qu'il soit spirituel, qu'il soit santé physique, qu'il soit professionnel, qu'il soit au niveau de l'éducation de mes enfants, au niveau de mon foyer, je déclare, Seigneur, que je prospère à tous égards comme prospère l'état de mon âme. Seigneur, je te dis merci parce que Christ, Jésus-Christ, n'est pas allé mourir à la croix pour rien et je veux que ma vie tout entière soit un message. Un message que j'envoie au monde en disant Jésus-Christ n'est pas mort pour rien. Bien plus encore, il est ressuscité et l'héritage pour lequel il a donné sa vie, aujourd'hui je le possède, aujourd'hui je le vis. Peut-être que cela mettra du temps que je possède cet héritage. Peut-être que cela mettra du temps que toutes les promesses soient manifestées dans ma vie. Mais je te rends grâce, Père, pour la conquête des promesses en cette nouvelle saison, en cette nouvelle année. Je te rends grâce parce que c'est possible et tout est possible à celui qui croit. Et je déclare, Seigneur, que ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni la largeur, ni la profondeur ne m'éloigneront de l'amour de Christ. Et je marcherai dans la voie qu'il a tracée pour moi. Je brillerai, comme dit ta parole. Lève-toi et brille. Alors que ma lumière brille, que ma lumière rayonne, que je rayonne et que la gloire de Dieu dans ma vie resplendisse, Père, au nom de Jésus-Christ. À toi soit toute la gloire et la louange, Père, pour l'œuvre que tu as commencée. À toi soit la louange, à toi soit l'adoration. À toi soient les honneurs, à toi soit la magnificence et à toi soit le règne, Père, au nom de Jésus-Christ. Tu es le roi des rois. Merci pour l'esprit de conquête. Merci pour la transformation de notre mentalité. Merci parce que tu changes notre perception du monde, de l'extérieur. Et tu nous accordes la grâce de commencer véritablement à marcher, Seigneur, dans la voie que tu as tracée pour nous. dans la conquête des promesses. Merci Père. Sois exalté, sois honoré au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.